Ah, très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je nous invite à nous plonger dans quelques textes de l'Ancien Testament, des textes de loi. Les chrétiens que nous sommes, des fois à la lecture de certains textes de l'Ancien Testament, ça nous laisse un peu perplexes et il se peut qu'on ne se sente pas trop concerné par ces commandements, par ces lois que Dieu a données à l'époque à des Hébreux qui sortaient d'esclavage, il y a quand même pas mal de temps, qui étaient nomades. Et il faut dire que ce n'est pas vraiment notre quotidien et des fois ça nous laisse un peu, oui, comme j'ai dit, perplexes. On se demande de quelle manière est-ce que ces textes doivent nous parler et comment les mettre en pratique à nous qui vivons désormais dans la nouvelle alliance, celle établie par Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Peut-être en note d'introduction, dire juste un ou deux petits mots sur la notion même de loi, la Torah. La Torah a été donnée par Dieu à travers Moïse à la sortie de son peuple d'esclavage en Égypte. Et cette Torah contient pas mal de commandements. Alors les responsables juifs ont compté, il semblerait qu'il y en ait 613. Je n'ai pas compté hein, pour ma part, mais j'ai tendance à leur faire confiance. Jésus-Christ lui-même nous dira qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il dira même que pas un seul iota, c'est-à-dire un seul point sur un i, ne doit pas être retiré de cette loi. Vous voyez, parce que des fois, même, il y a des articles de loi qui peuvent se jouer sur un mot. Là, je parle de notre loi, hein, la loi moderne. Quand tu retires un mot, eh bien, des fois, ça peut complètement changer le sens, vous voyez ? C'est pour ça que Jésus insiste pour dire que pour ce qui est de la Torah, je ne vous permets absolument pas de retirer le moindre point sur i. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous concerne bel et bien. Et Jésus va rajouter une couche encore. Il va dire, oui, vous voyez ces pharisiens-là, très scrupuleux dans la mise en pratique de la loi. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, faudra que votre justice dépasse celle de ces pharisiens-là, voyez. Je dis ça en note d'introduction parce que il ne faut pas qu'on lise ces lois de l'Ancien Testament comme des choses caduques qui ne nous concernent pas trop. Nous, on est dans une époque où on est sous la grâce. Ce n'est pas la bonne manière de voir. Jésus n'a pas du tout dit ça. Cette loi s'applique à nous, mais dans une autre réalité. Parce que c'est Jésus-Christ qui la manifeste, cette loi, en vérité et en réalité. Amen. Les 10 commandements que j'espère beaucoup d'entre nous ici connaissent sont donnés par Dieu juste après la sortie d'Égypte. Ces 10 commandements, on les trouve en Exode 20. On ne va pas les parcourir là ce matin. Ce matin, je vais plutôt m'attaquer sur le début du chapitre 21 du livre de l'Exode. Exode chapitre 21. Mais avant de lire Exode chapitre 21, j'aimerais qu'on commence par Lévitique chapitre 25. Et on lira là aussi quelques versets. Je vais, Dieu voulant, nous accompagner dans une série de prédications, peut-être 2 ou 3, hein. Les séries trop longues finissent par lasser, sur des points un peu épineux de la loi, des choses des fois qu'on n'aime pas lire, ou quand on lit, on passe vite dessus. Les lois sur l'esclavage, les lois sur les animaux impurs, on verra tout ça, Dieu voulant, dans les dimanches à venir. Ce matin, on va parler de l'esclavage. En Lévitique 25, à partir du verset 39, Dieu dit, Lévitique chapitre 25, « Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. » Je lis dans la version du semeur, dans la seconde, les mots peuvent être un petit peu différents. « Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. » Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne les traiteras pas avec brutalité. Les esclaves, hommes ou femmes qui vous appartiendront, proviendront des nations qui vous entourent. C'est d'elles que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Je lis le verset 25, toujours dans ce même chapitre de Lévitique 25. Pardon, je lis le verset 55, qui est le dernier de ce chapitre. « Car les Israélites sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est donc un texte en introduction du texte qu'on va méditer ce matin. Donc, Exode 21. L'Éternel dit à Moïse, « Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. » Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui partira seul et libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si après l'avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces 3 choses, elle pourra partir libre et sans paiement. Toujours dans Exode 21, les versets 20 et 21. Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante, en le frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit 1 jour ou 2, son maître ne sera pas puni, car il a acquis avec son propre argent. Toujours dans ce même chapitre, les versets 26 à 27, si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil, au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent. Amen. Voilà, j'ai été obligé de vous faire lire des petites sections parce que c'est des textes qui abordent plusieurs sujets qui sont entremêlés. Et donc le thème d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, va parler de l'esclavage. Je vais dire d'abord 2 choses en note de commentaire. Le premier commentaire, c'est que Au chapitre 20, comme j'ai dit, Dieu a parlé des 10 commandements, la loi fondamentale. Ensuite, donc à la fin du chapitre 20, il a donné des lois pour construire les autels sur lesquels il fallait faire les offrandes adressées à l'Éternel. Très spirituel, hein? Comment construire les autels sur lesquels on va faire les sacrifices pour Dieu? On est quand même à un niveau très spirituel. Et tout de suite après, au chapitre 21, de quoi va nous parler Dieu? De l'esclave. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Comment c'est brutal? On passe d'un niveau très élevé, les commandements, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu aimeras ton... Et voilà, tu construiras des autels. Et tout de suite... Au chapitre 21, l'Éternel dit à Moïse, voici les lois que tu exposeras au peuple lorsque vous achèterez un esclave hébreu. Je me suis dit, mais quand même, c'est un esclave. Il n'y a rien de plus insignifiant dans une société. Pourtant, c'est par là que Dieu commence. C'est que pour Dieu, visiblement, c'est important. Le peuple à qui il s'adresse était un peuple d'esclaves. La notion de l'esclavage pour Dieu est quelque chose d'important. Premier commentaire. Donc, à ne pas banaliser, souvent c'est des textes qu'on lit vite fait, et puis bon, ben, l'esclavage est aboli, nous on n'est plus à cette époque-là. Deuxième commentaire, c'est sur notre réaction. Ce genre de texte peut être en fonction, je ne sais pas moi, de notre culture, peut-être même de notre couleur de peau. Oui, c'est des textes qui peuvent nous chatouiller un peu. Soit nous repousser en disant, mais oui, mais tout ça c'est révolu, l'esclavage c'était n'importe quoi et tout ça. Nous blesser, nous frustrer. Peut-être nous gêner. Parce qu'on va avoir en tête la traite des esclaves noirs de l'époque. Et donc, c'est des textes qui peuvent nous faire, je sais pas, ça peut nous faire réagir un peu. On peut se dire, ah, mais pff, l'esclavage, Dieu merci que c'est aboli. On a tourné la page de tout ça. Tout ça, c'est révolu. Dieu merci, aujourd'hui, en 2017, tout ça, c'est passé. Alors, on peut bien méditer ces lois pour se faire du bien, mais en fait, franchement, nous, ça ne nous concerne plus parce que tout ça est aboli. Dieu merci. Et c'est là que je veux faire un petit commentaire. Parce que aujourd'hui, même en 2017, l'esclavage est bien là, est bien présent. Et même quand on fait des petites statistiques, il y a des ONG, en fait, qui le font, qui se rendent compte qu'il y a beaucoup plus d'esclaves à notre époque qu'il y en avait à l'époque où il y a eu donc cette traite des esclaves noirs. Simplement, aujourd'hui, ça s'appelle l'esclavage moderne. Très bien, je vois que vous êtes bien cultivés. Il n'y a pas du tout à chercher loin. Vous sortez juste là. Il n'y a même pas du tout à chercher loin. L'esclavage moderne, il est là. Il est là, autour de nous, il est omniprésent. Quand je travaillais à la BNP à l'époque en 2012, maintenant ça a changé, ils venaient de racheter des locaux à Paris, hein, Paris 19e, hein, boulevard McDonald's. Là je parle de Paris, hein, intramuros. Et le quartier, il y avait beaucoup de prostituées. Donc là depuis ils ont fait le ménage parce que quand même il y a la BNP qui est installée, pour les clients qui viennent quand même... Beaucoup de prostituées que nous voyons dans la rue sont bien des esclaves modernes. Je me fais comprendre un petit peu. Le thème de l'esclavage, c'est tout à fait moderne et à l'ordre du jour. On est entouré de gens, peut-être, qui ont eux-mêmes des esclaves, sans le savoir, ou qui sont eux-mêmes des esclaves. On entend des fois des enquêtes où on se rend compte que nos chaussures de marque, nos vêtements de marque, bien des fois, en tout cas pas tous, Dieu merci, mais pour une partie, sont fabriqués par des enfants esclaves. Dans certains pays comme la Mauritanie, en Afrique, en Asie, en Inde, et autres, l'esclavage est là. Il est connu, il est vécu, il est officiel même, vous voyez. Et donc ces textes-là s'adressent à nous, chrétiens dans ces pays-là, pour changer notre regard sur tout ça. Donc ce n'est pas des textes à balayer comme ça du revers la main et dire « Ah, ça, ça ne nous concerne pas », ça nous concerne bel et bien. Parce que l'esclavage d'aujourd'hui, à bien des égards, est bien plus pervers que l'esclavage de l'époque. Que dit des mariages forcés, par exemple, d'enfants mineurs? C'est de l'esclavage ou pas? C'est pire que de l'esclavage, parce que c'est toute la vie de la jeune fille là, qui est brisée dans ces conditions-là, vous voyez? Donc Dieu prend soin des esclaves. Et il commence par dire au chapitre 21, « Lorsque vous achèterez un esclave hébreu. » C'est-à-dire, c'est un texte qui s'adresse au maître, à celui qui va acheter l'esclave. Et c'est un texte qui défend les droits de l'esclave. Ça, c'est révolutionnaire, hein, parce que l'esclave, par définition, c'est quelqu'un qui n'a rien à défendre. Et là, Dieu s'adresse au maître pour dire « Attention !» Attention à ce que tu fais avec ton frère hébreu que tu prends comme esclave. Je vais essayer de résumer un peu les textes qu'on a lus. Ils sont un peu compliqués. Je vais en résumer quelques points. Pour ce qui est des esclaves hommes, dans Lévitique 25, ce qu'on a vu, c'est si ton frère qui devient pauvre se vend à toi, je la remets, Lévitique chapitre 25, hein, verset 39, « Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. » Alors il quittera le service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Et en Exode 21, donc le verset 1, Dieu dit, donc, « Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre, sans avoir rien à payer. » Quand j'associe ces deux textes-là, j'espère que ma compréhension est bonne, je comprends que en fait, on ne prenait pas des esclaves comme ça. Vous voyez, ce n'est pas comme la traite des Noirs. Hein? D'ailleurs, j'aimerais juste lire, excusez-moi, hein, Deutéronome 24, je l'avais noté, mais je ne l'ai pas lu. Deutéronome 24, cherchez-le pour ceux qui ont une Bible, au verset 7. Voilà. Voilà. Donc, Deutéronome 24, verset 7. Si l'on découvre qu'un Israélite a enlevé l'un de ses compatriotes israélites et l'a réduit en esclavage ou l'a vendu, cet homme sera puni de mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Quand je colle ces trois textes, celui de Lévitique 25, d'Exode 21 et celui qu'on a lu. C'est un peu difficile à suivre, mais j'espère que vous allez comprendre. Je comprends qu'en fait, l'esclave, ce n'était pas quelqu'un qu'on prenait comme ça, comme un kidnapping. Non. Ce n'était même pas quelqu'un à qui on venait comme ça, dire « Tiens, lui, il m'intéresse. » Mais non. En fait, entre Hébreux, ne devenait esclave que celui qui, par pauvreté, décidait de se vendre. Vous voyez la différence? C'est pas moi qui vais lui faire violence pour qu'il devienne mon esclave, mais c'est lui, pour faire face à sa situation financière difficile, décide de devenir esclave et de se vendre. Mais là, je veux corriger un peu ça. Parce que finalement, est-ce qu'il se vend?
Non.
Voilà, il y a une nuance. Il ne se vend pas. Il vend ses services. D'accord ? Il vend ses services. Qui plus est, Dieu le dit, pour une durée limitée. Et c'est pas parce qu'il a eu un problème une fois qu'à vie, il est devenu esclave. Non. 6 ans. Et après, il peut se ressaisir. Il peut rebondir. Il peut se reconstruire. Il peut d'autant plus se reconstruire que pendant ces 6 années, il n'a pas perdu son patrimoine. Ça, c'est aussi une autre loi de l'Ancien Testament dont on ne parle pas là dans les textes qu'on a lus. Les terres que Dieu a données à chaque famille là, ces terres ne devaient jamais être cédées à perpétuité. Il pouvait les vendre, mais il les récupérait pendant l'année du jubilé. Amen.
Amen.
Quelle est l'idée derrière? Ça veut dire que, voyez, c'est un esclavage qui est mis là en place, en réalité, pour donner la possibilité de quelqu'un qui n'a plus aucune ressource de s'en sortir et de se reconstruire. Rien à voir avec les idées de l'esclavage qu'on a nous en tête quand on voit les films sur la traite des nègres. Rien à voir. Je me fais bien comprendre un peu. Voilà. C'est pour lui donner de se reconstruire, qu'il vend ses services pendant une durée limitée et peut regagner son patrimoine. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui maintient l'esclave dans sa dignité. C'est presque comme un salarié. Hein. Vous voyez? Voici un peu le premier enseignement que je peux tirer de ces textes. Deuxième enseignement, c'est que pendant ce temps de servitude, pendant ce temps d'esclavage, l'esclave n'est pas livré à son maître corps et âme. Le maître doit faire attention à ne jamais toucher à l'intégrité physique de cet esclave-là. Oui, on a lu un verset où c'est vrai qu'il peut le battre. C'est des pratiques qui se faisaient à l'époque. Mais on a lu aussi un verset qui dit que si lui casse une dent, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Ça conforte l'idée que il est là chez toi, comme ton esclave, il est là pour te rendre un service. C'est pas un objet que tu prends, que tu casses selon ta bonne volonté. Si tu lui casses la moindre dent, alors tu lui laisses partir. Vous voyez comment Dieu a souci de cela. Alors c'est vraiment important. Je me suis dit pour nous aujourd'hui, ça peut nous aider à avoir un regard un peu différent. Parce que quand quelqu'un est en difficulté, peut-être notre société pourrait l'aider à se reprendre en charge, à se reconstruire, plutôt que à l'assister, comme des fois on peut le constater, notamment dans notre pays, la France. Ça, c'est un système qu'on pourrait bien appliquer ici, en France. Pourquoi? Parce que bien des fois, on se rend compte que ben, pour des personnes en précarité, la société les encourage à une certaine passivité. Alors que là, il me semble que Dieu met en place un système qui permet à celui qui n'a plus aucune ressource de pouvoir s'en sortir après un temps limité où il donne de ses services. Amen. Bien. Situation de l'esclave femme. Il est vrai que pour cela, il faut le savoir, c'est pas bien marqué dans les textes qu'on a lus, mais prendre une esclave femme, d'abord, je vais me remettre sur le texte. Il est dit quand quelqu'un vend sa fille, c'est bien ça, hein? Au verset 7. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Parce que les esclaves femmes, en réalité, étaient aussi considérées comme des épouses de second rang. Elle ne doit pas être traitée tout à fait comme les esclaves hommes. Si celui qui l'a acheté se la réservait comme épouse de second rang, quelque part en achetant cette femme esclave, il a pris un engagement. Du coup, elle aussi, ben, elle s'imagine avec lui. Et si jamais elle ne lui plaît plus, il ne peut pas la laisser comme ça n'importe comment. Ce serait la trahir. C'est bien ce que dit le texte. Hein, au verset 8, « Si elle déplaît à son maître qui se la réservait, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. » Ce serait la trahir. La faire racheter, c'était notamment quelqu'un de proche de la famille qui la libérait de son esclavage. Hein. D'accord ? Verset 9. S'il l'a destiné à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si finalement cet homme a acheté cette esclave femme en la réservant pour son fils, là aussi comme épouse de second rang. Alors attention, il est dit, s'il l'a destiné à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des, et non pas à des esclaves filles, hein, mais à des filles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si finalement tu as vu cette fille, elle est esclave, tu veux la prendre pour ton fils, alors attention, tu l'as regardée non plus vraiment comme une esclave, elle t'a plu et tu la réserves pour ton fils. Alors tu vas lui appliquer d'autres lois. La loi qui s'applique à toutes les filles. C'est-à-dire, on aura peut-être le temps de la voir la prochaine fois. Quelles sont les lois qui s'appliquent à toutes les filles? Bah, tu vas demander sa mère, tu vas la doter. Même si elle doit être une épouse de second rang, tu vas lui appliquer les mêmes droits qu'à toutes les filles. Et la Bible en parle. Il faut l'accord des parents. Il faut une dot. Vous voyez? Donc, ces femmes esclaves, ce n'était pas juste « elle me plaît et ça sera mon objet sexuel ». Pas du tout. Elles ont un statut, elles ont des droits. Et il est dit au verset 10, « Si après l'avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces trois choses, elle pourra partir libre et sans paiement. » Ça veut dire quoi? Tu as pris l'esclave femme. Bien. Ensuite, tu t'es trouvé une vraie femme. D'accord? J'insiste sur ces différences parce que les esclaves femmes étaient quand même des épouses de second rang. Ça, c'est les mœurs de l'époque. Hein? C'est pas pour autant que tu vas mettre à la poubelle la première esclave. Ah oui, parce que tu l'as prise comme épouse quand même. Certes de second rang, mais tu l'as prise comme épouse. Tu lui dois assistance. Et même, j'aime bien la précision, tu lui dois le devoir conjugal. Ah oui, c'est pas parce que l'autre est venu que du coup tu la mets à la poubelle. Si tu le fais pas, alors tu la laisses partir libre et sans paiement. Il existe quand même au niveau des esclaves hommes une petite différence. La Bible a fait une différence entre l'esclave pris parmi vos frères hébreux et les esclaves pris parmi les peuples, les nations que les Hébreux ont trouvé là quand ils sont arrivés en Canaan. Et en réalité, quand on lit ces textes, c'est plutôt ça qui peut vraiment nous choquer. Parce qu'il y a une différence qui est fondamentale. L'esclave hébreu, il reste esclave pour une période donnée et après il est libre. L'esclave non hébreu reste la propriété de son maître à perpétuité. Voyez un peu la différence? Il est vrai qu'on peut se sentir un peu émoustillé que Dieu semble donner son cachet, son accord pour de telles pratiques. Mais j'aimerais faire une petite remarque. Juste déjà dire que même quand on prend les animaux, c'est bien Dieu qui a créé tous les animaux, n'est-ce pas? Pourtant, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il y a certains qui sont purs et d'autres qui sont impurs. Ça aussi, on peut se dire, mais c'est deux poids, deux mesures. La Bible nous dit que l'homme, l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Hébreu ou pas. Comment se fait-il que pour l'esclave hébreu, Il sert 6 ans et après il est libre. Ouais, chouette. Et ses collègues non hébreux, eux, ils sont esclaves à perpétuité. Le chrétien versé dans la parole de Dieu doit dépasser la réaction épidermique et dire oui, oh, c'est choquant, mais bon, allez, on va pas prêcher dessus, on va pas le dire et tout. Si, on a des choses à dire dessus. On va bien prêcher dessus. Parce que il y a là un enseignement qui est dur à recevoir, mais qui est biblique. L'enseignement de ces gens de texte, il est certes dur à recevoir, mais le prédicateur doit s'appliquer à le donner. Parce qu'il y a une différence entre l'hébreu et le non-hébreu. Ça a beau nous choquer, Dieu le dit lui-même. L'hébreu ne peut pas être esclave à perpétuité pour une raison fondamentale. Parce qu'il appartient à Dieu. Ce n'est pas le cas de celui qui n'est pas dans cette alliance avec Dieu. Vous voyez ? Quand Dieu sort son peuple d'Égypte, qui les envoie en Canaan, qu'est-ce qu'il demande de faire aux peuples qui sont là dans ce pays ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent les chasser ? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je vois que c'est des textes durs. Hein? Peut-être j'aurais pu le prêcher en 2 dimanches. C'est des textes qui nous titillent un peu. Mais en réalité, Dieu est très clair. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de nuancer la parole de Dieu. C'est vous la donner telle qu'il l'a donnée. Vous voyez ? Oui, Dieu demande aux Hébreux sortis d'Égypte, quand ils arrivent en Canaan, de les exterminer. Je vois les visages qui se ferment. C'est bien ça ou je me trompe ? Voilà. Ah oui, c'est très clair. Hein? Ce n'est pas dit avec des mots. Non, non, c'est très clair. Donc, en fait, dans le plan de Dieu, il y a une différence fondamentale. Il y a une différence de statut. Dieu s'est choisi un peuple, il leur a donné une loi. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez. Cette alliance-là, à ce stade, n'est pas faite avec les autres peuples. Dieu veut absolument qu'il y ait une différence entre son peuple et les autres peuples. Ça a beau nous choquer, mais c'est ainsi. Les Hébreux ne doivent pas être esclaves, à cette époque-là, j'entends, à perpétuité, parce qu'eux, ils appartiennent à un maître. Qui se l'est acquis. Ils ne les prêtent pas. Ils appartiennent à leur maître déjà à perpétuité. Ils ne peuvent pas en avoir deux. Pour ce qui est des peuples environnants dont Dieu avait demandé qu'ils soient exterminés, vous pouvez y prendre des esclaves. Je veux rappeler d'ailleurs que ces peuples même pratiquaient un esclavage bien plus rude hein, que ce que les Juifs peuvent pratiquer. Dans ce cas, avec les autres peuples, vous serez avec eux sur la base de vos propres lois, les lois que vous pratiquez entre vous. Si ces peuples prennent des Hébreux, ils en font des esclaves à perpétuité qu'ils maltraitent, n'est-ce pas ? Si vous, les Hébreux, vous prenez des esclaves chez eux, vous les avez à perpétuité. Mais quand même, attention, pas au point non plus d'attaquer leur intégrité physique, parce que les textes que nous avons lus les derniers s'appliquent aux esclaves hébreux et aux esclaves non hébreux. Ça peut paraître un peu compliqué ce matin, mais c'est important. Celui que Dieu rachète a un statut qui est différent. Et là, je vais faire le lien avec le Nouveau Testament. Parce qu'en réalité, Jésus va aussi rebondir sur cette idée, sur cette notion d'esclavage et de liberté. Et Jésus aussi va faire comme une petite différence. Lisons un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Évangile selon Jean, au chapitre 8. Voilà, j'avais noté les versets 31 à 36. Mes notes sont-elles bonnes ? Voilà. Jean chapitre 8, versets 31 à 36. C'est Jésus qui parle, qui s'adresse aux Juifs, et il dit « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, les Juifs, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ils ont raison. C'est bien les textes qu'on a lus. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres, puisqu'on n'a jamais été esclaves, nous? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Amen. Jésus là prend l'image d'une maison, avec le père de famille, les enfants, et les serviteurs ou esclaves. Le mot ici qui est traduit par serviteur, aussi, il peut être esclave. D'accord ? Et que dit Jésus ? Les esclaves dans la maison, en fait, ils sont pas vraiment de la famille. Ils sont là dans la maison, mais ils sont pas vraiment de la famille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ils ne sont pas chez eux. Ils peuvent rendre des services, faire des choses très bien, être bien traités, tout ça très bien. Mais ils ne sont pas chez eux. Le fils, lui, il est chez lui. Parce que c'est la maison de son père. Vous me suivez?
Oui.
Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Verset 36. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Vous pouvez être dans la maison, comme le fils aussi est dans la maison, mais vous n'avez pas le même privilège, parce que vous n'êtes pas de la famille. Par contre, si le fils vous donne la liberté et vous garde dans la maison, alors vous n'êtes plus des esclaves. Vous faites partie maintenant de la famille. Vous pouvez continuer à faire le même travail que vous faisiez, mais vous n'êtes plus comme l'autre serviteur esclave qui, lui, n'a pas été libéré, pas été adopté dans la famille. Voyez la logique de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Jésus est en train de dire là un enseignement qui est profond. Et dans le Nouveau Testament, c'est ça le véritable esclavage. L'esclavage du péché. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, l'illustre en disant, mais je fais des choses que moi-même je désapprouve. Je ne voulais pas le faire, mais il y a une force en moi qui le fait. Je ne suis pas content, mais je le fais quand même. Voyez l'image de l'esclavage qui te fait ce dont, qui te fait faire ce dont tu n'as pas envie et qui te conduit là où tu ne veux pas aller. Le véritable esclavage de l'homme est celui du péché. Et face à cet esclavage, hébreux comme non-hébreux, nous sommes mis tous sur le même point d'égalité. Nous sommes esclaves du péché. Et le seul moyen d'en sortir, c'est d'être adopté, arraché de cet esclavage par le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait le Fils de Dieu par son sacrifice? Il nous rachète pour lui appartenir. Le chrétien est fier de porter le titre d'esclave, mais d'esclave de Dieu. Nous sommes des esclaves pour Dieu, mais des esclaves rachetés, des esclaves adoptés. Amen.
Amen.
Cet esclavage, Jésus nous en délivre à condition que nous placions notre foi, notre confiance en lui. Et en lui, nous sommes réellement libre. libre de marcher avec Dieu, libre en sachant que, oui, même si nous luttons avec le péché, nous savons, comme tu nous l'as rappelé encore, que la victoire est acquise et certaine en Jésus-Christ. Nous ne marchons pas pieds et mains liés, les chaînes sont brisées. Et cela, que nous le voulions ou pas, cela n'est le privilège que de ceux qui mettent leur foi ou leur confiance en Jésus-Christ. Le reste de l'humanité est, sans le savoir, esclave du péché. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais conclure sur une note d'exhortation, d'invitation. Parce que on a parlé d'esclavage, de lien, de liberté. Mais il y a aussi d'autres formes d'esclavage qu'on a dans le cœur. Des chaînes que nous lions, nous attachons, nous doublons même pour ne même pas qu'elles se brisent. Des chaînes de rancœur, des chaînes de rancune, des chaînes de jalousie, des chaînes de convoitise. C'est aussi de l'esclavage. Si j'ai contre mon frère une haine qui dure depuis des années, que je ne peux pas vraiment lui pardonner, d'une certaine manière, je le maintiens en esclavage dans mon cœur, voyez ? On peut, sans le savoir aussi, être des esclavagistes, mais sur le plan moral. Ces textes, comme cette parole de Jésus, qui nous disent que nous sommes libres, doivent nous inviter aussi à nous libérer les uns les autres. Si j'ai regardé tel frère et telle sœur d'une telle manière depuis des années, il faut que ça change. Amen. 6 ans d'esclavage et après la liberté. 49 ans de servitude et la 50e année, l'année du jubilé. Que les haines, les rancœurs, les rancunes, les querelles ne restent pas à perpétuité au milieu du peuple de Dieu. Brisons les chaînes, brisons les liens, brisons la haine, brisons la colère, brisons la jalousie, brisons les murmures, brisons les paroles méchantes. Voici ce que nous pouvons faire en tant que libérés par Jésus-Christ. La Bible n'est pas un texte qui va nous dire « abolissez l'esclavage ». C'est peut-être ce qu'on aurait voulu lire dans la Bible. Mais même en faisant ça, l'esclavage aurait perduré sous d'autres formes. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Aussi, la parole de Dieu par son esprit agit dans le cœur de l'homme. C'est là qu'il veut agir. C'est pas dehors. On peut faire des lois. Il y a plein de lois. Mais l'esclavage continue. Allez dans les restaurants, vous verrez qui vous fait cuire votre steak. Demandez son salaire. Et là, vous serez surpris des fois. L'esclavage est là partout. Mais c'est de l'intérieur que Dieu veut nous transformer. Si en ce matin, Jésus t'a vraiment libéré, libère ton frère et change ton regard sur lui. Amen.